RCF. Et à 6h30, le journal, c'est avec vous, Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Et c'est le grand jour, une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites.
De nombreux secteurs se joignent au mouvement contre la proposition de loi du gouvernement après une mobilisation du 19 janvier réussie. Cette journée du 31 janvier risque d'être marquée par de fortes perturbations, notamment dans les transports. 900 pages de révélations choc. L'enquête sur la communauté de l'Arche a livré ses conclusions hier. Un rapport qui montre la face cachée de Jean Vanier, son fondateur. Il est accusé d'emprise et d'harcèlement moral et sexuel sur au moins 25 femmes. Le pape François qui commence son voyage en Afrique, il est attendu aujourd'hui en République démocratique du Congo pour rencontrer les victimes de violences dans l'est du pays.
Deuxième journée d'action et de mobilisation contre la réforme des retraites.
C'est un mardi noir qui se profile. Tour d'horizon des principales perturbations. Sans surprise, les transports seront les plus impactés, notamment la SNCF Jean-Baptiste Labeur.
Un TGV sur trois, quasiment aucun intercité et deux TER sur 10 en moyenne. Mais il y aura de grandes disparités selon les régions et les lignes. Du côté de la RATP, certaines lignes de métro seront seulement ouvertes aux heures de pointe, avec une fréquence réduite. Les transports en commun seront aussi perturbés en région. À Lyon, le réseau TCL sera arrêté à 20h30. La ligne B du métro fermée. À Marseille, la ligne 1 sera à l'arrêt. À Nice, aucun tramway ne circulera. Dans les airs, un préavis a été déposé par les aiguilleurs du ciel. Un vol sur 5 sera supprimé à l'aéroport d'Orly. Des appels à la grève ont également été lancés au sein des compagnies aériennes. Le SNUIP FSU, premier syndicat du primaire, prévoit lui que la moitié des enseignants seront grévistes. Le mouvement devrait être aussi suivi dans les collèges, lycées, universités et aussi dans la petite enfance. Dans les raffineries, la CGT appelle à des baisses de débit et des blocages de livraison. À la montagne, c'est FO et la CGT qui appellent à la grève les salariés des remontées mécaniques.
Enfin, plusieurs mairies fermeront leurs portes aujourd'hui symboliquement. C'est le cas de Paris, Lens, Issoudun ou encore Saint-Paul à La Réunion. Alors qu'1 à 2 millions de personnes avaient marché le 19 janvier lors du premier appel intersyndical à la grève, les syndicats espèrent dépasser ce chiffre. L'indice de mobilisation s'annonce à nouveau élevé. Les services de renseignement ont indiqué s'attendre à 1,2 million de manifestants au niveau national, dont 100 000 à Paris. Et du côté de l'Assemblée, depuis hier et jusqu'à mercredi soir, les députés qui font partie de la Commission des affaires sociales débattent pour finaliser le projet de loi du gouvernement. Il nous reste encore 5 503 amendements à examiner. A déclaré ironiquement la présidente de la commission, Fadila Khattabi. Hier, la tension est montée d'un cran supplémentaire entre l'opposition et l'exécutif. Elisabeth Borne a exhorté sa majorité à porter la réforme, à la fois, je cite, en défendant notre projet et en ne laissant pas se propager des contre-vérités. Pourtant, les avis sur cette proposition de loi divergent au sein même de la majorité. Pour Anaïg Lemeur, députée Renaissance de la première circonscription du Finistère, certains amendements pourraient être à ajouter ou à enlever pour améliorer la réforme. Mais pour elle, il faut tout de même la voter pour le bon fonctionnement de notre système des retraites.
Quand on vote une loi, on la vote aussi en global. Je sais aussi que derrière, on a quand même une démographie qui est grandissante, avec un vieillissement des populations, avec un système par répartition auquel je suis très attachée. Donc il y a aussi une vision globale à avoir. Il ne faut pas avoir des points de clivage sur un seul point qui pourra être amélioré. On aura d'autres occasions aussi pour faire évoluer les choses sur des lois travail à venir. Maintenant, une loi, c'est assez global, il faut être réaliste. Actuellement, il y a un vieillissement tel qu'on ne pourra pas financer à terme le vieillissement de la population et faire que les gens vivent dignement de leur retraite. Actuellement, on propose une retraite à 1200 euros pour chaque retraité. Je pense que c'est une très belle avancée et il ne faudra pas passer outre cette avancée. Donc voter contre, c'est voter contre la solidarité aussi envers les plus anciens.
C'était Anaïg Lemeur, députée Renaissance de la première circonscription du Finistère.
Des traits sectaires au fondement de la communauté de l'Arche.
C'est ce que révèle le rapport de 900 pages publié hier. La communauté qui accueille des personnes atteintes de handicap a mandaté à l'automne 2020 des chercheurs pour comprendre la face cachée de Jean Vanier. Non pas un travail d'étude exhaustif, mais une enquête pour comprendre les délires spirituels et l'emprise de Jean Vanier sur les victimes. La commission identifie tout de même 25 femmes victimes du fondateur de l'Arche. Et par ailleurs, les révélations portent l'idée d'une relation sectaire entre Jean Vanier et son père spirituel Thomas Philippe. Écoutez l'historien Antoine Mourges, co-auteur du rapport.
C'est un cheminement progressif qui se fait sur une période d'environ 2 ans, hein, entre le moment où il arrive à Lviv fin 1950 et le milieu de l'année 1952. Une rencontre, il l'a définie a posteriori, hein, comme une rencontre d'ordre mystique, mais où on perçoit aussi que se mêlent certainement des attentes affectives. Il y a des traits sectaires dans ce petit groupe qui se constitue autour de Thomas Philippe. Thomas Philippe devient la vocation de Jean Vanier. En fait, il devient le médiateur essentiel entre Dieu et Jean Vanier. Après la condamnation de Thomas Philippe en 56, il y a un tout petit groupe, un tout petit noyau qui reste autour de Thomas Philippe et qui se pense en opposition au reste du monde, hein, donc un tout petit groupuscule de quelques personnes dont les croyances reposent sur une révélation particulière transmise par la Vierge Marie à Thomas Philippe.
Et on y reviendra largement dans cette matinale avec un dossier de Grégoire Gendre. Ce sera à 7h15. Il reviendra sur les conclusions de ce rapport publié hier par cette commission indépendante mandatée par l'Arche internationale. Et à 8h10, Stéphane Pesner, le responsable international de l'Arche, sera le grand invité.
Le pape François en voyage en Afrique. Il part aujourd'hui pour une visite en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. À Kinshasa, le pape doit en particulier rencontrer des victimes des violences dans l'est du pays. La région est le théâtre de massacres liés à l'exploitation illégale des minerais. Dans ce contexte de crise économique, sociale, politique, sécuritaire et sanitaire, les Congolais attendent que François se prononce sur la situation dans le pays. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, le cardinal archevêque de Kinshasa, ce voyage suscite beaucoup d'espérance.
L'Église du Congo, le peuple congolais, comme le peuple d'Afrique d'ailleurs, attend énormément de cette visite du pape François. Parce que l'Afrique aujourd'hui vit une situation dramatique. Il y a une main noire qui met le feu partout et le Congo, mon pays, souffre énormément. La venue du pape François à Kinshasa est attendue par le peuple parce que le peuple veut que le pape puisse parler et hausser le ton par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, le Congo, avec le groupe des armées à l'Est. Et maintenant, c'est démontré par les Nations Unies. Mais nous attendons que cette voix forte du pape François puisse mettre la main sur ce désordre, ce qui sera pour le peuple un réconfort. Et en même temps, le pape vient en tant que pasteur universel. C'est aussi pour confirmer le peuple dans sa foi.
Le cardinal Fridolin Ambongo, le cardinal archevêque de Kinshasa, au micro d'Étienne Pépin. Après la République démocratique du Congo, le pape se rendra à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Il sera accompagné de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse pour un pèlerinage œcuménique de paix. A noter également que le pape a nommé hier un nouveau préfet du dicastère pour les évêques. Ce haut poste stratégique a pour responsabilité de nommer la majorité des évêques du monde. Et c'est Monseigneur Robert Francis Prévost, un Américain actuellement évêque au Pérou, qui succédera mi-avril au cardinal canadien Mark Ouellet. Ce dernier a démissionné hier car il est visé par 2 plaintes pour harcèlement sexuel. L'archevêque québécois était en poste à Rome depuis 2010.
Après les chars lourds la semaine dernière, les discussions se tournent autour de la livraison d'avions à l'Ukraine.
Oui, hier, lors d'une visite d'État à La Haye aux Pays-Bas, Emmanuel Macron a dit ne rien exclure à propos d'hypothétiques envois d'avions de chasse pour aider l'Ukraine, à condition que cela ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol, a précisé le président français. De son côté, Joe Biden a lui refusé catégoriquement de livrer ses avions de combat F-16 à l'Ukraine.
La crise continue à la Fédération française de football.
Un rapport provisoire de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, piloté par le ministère des Sports, a été envoyé hier aux principaux intéressés. Parmi eux, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, en pleine tourmente depuis qu'il fait l'objet d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Magali Santulli, vous nous donnez des précisions sur le contenu de ce texte qui pourrait bien précipiter le départ de son président.
Et Noël Le Graët n'est pas épargné par le rapport. Selon l'audit, le président de la Fédération française de football, mis en retrait depuis le 11 janvier, n'a plus la légitimité pour administrer sa fédération. Et cela compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance. Noël Le Graët est notamment épinglé pour son attitude sexiste envers les femmes. Une allégation corroborée par des témoignages sur ses agissements qui pourraient recevoir recevoir une qualification pénale, précise l'audit. En ce sens, le rapport critique la politique plus générale de la fédération à propos des violences sexistes et sexuelles qui n'est, je cite, ni efficace ni efficiente. Autre cible du rapport, Florence Ardouin, la directrice générale de la FFF, lui est reproché un management brutal et des relations presque toxiques avec Noël Le Graët. Les dirigeants de la FFF ont jusqu'au 13 février pour prendre connaissance des conclusions de l'audit et de ses recommandations avant la publication d'un rapport définitif et contradictoire.